France Musique.
Très bon week-end à vous, Nicolas Lafitte, et à très vite.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique, s'il te plaît ? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne ?
Y a du café ?
Ouais, du café. J'arrive.
Bonjour à tous. Notre nouvel épisode de Fabrication Maison, ce matin encore, réserve quelques bonnes surprises. Un portrait d'Amaury Coeto, super soliste à l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Un reportage sur l'Orchestre National de France, mené par les lycéens de Meaux. Une chronique sur le foot de Marie Fauché, que nous ne savions pas si sportive. Avec quelques archives fabuleuses, Jean-Yves Pat nous emmène en train. Puis nous finirons par l'un de vos souvenirs musicaux et le choix de Sophie. Il n'y a pas de temps à perdre en ce samedi matin.
France Musique.
Bonjour Amaury Coeto.
Bonjour.
Alors Amaury, vous êtes depuis 2012 l'un des trois super solistes de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, avec Svetlin Rousseff
et Hélène Collerette.
Et puis depuis 2 ans, vous êtes également l'un des chefs invités de cet Orchestre Philharmonique de Radio France.
Oui, c'est vrai, c'est un grand plaisir. On se retrouve maintenant, ça c'est en train de devenir une tradition de faire ça une fois par an. Chaque super soliste le fera.
Oui, Hélène avait dirigé du Mozart, vous aussi me semble-t-il.
Absolument, il y a 2 ans, on avait fait une série autour de la petite musique de nuit. Et puis cette année, donc, il y aura un programme autour de Souvenirs de Florence de Tchaïkovski, qui est un arrangement du Sextuor. Il y aura la 10e symphonie de jeunesse de Mendelssohn et puis le 25e concerto de Mozart avec Paul Lewis au piano.
Pas mal. C'est ce soir à 20h.
Absolument.
On y reviendra. En attendant, on va essayer de tracer ce matin votre portrait en musique et on commence avec un document un peu d'archives. Thank you. Magnifique.
Ah, c'est magnifique, c'est absolument superbe.
Ah oui, c'est le premier mouvement de la sonate de Debussy par donc deux grands maîtres, Jacques Thibault au violon, Alfred Cortot au piano. Vous ne saviez plus quel qualificatif utiliser à Morricoeto pour parler de cette interprétation.
Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ce CD que j'adore. Il y a absolument tout. Il y a la passion, on disait le côté charnel. Il y a une fluidité dans l'interprétation. On traverse ça comme un conte. C'est juste fabuleux.
On a l'impression d'un langage aussi très commun entre ces deux artistes. Une respiration commune.
On sent qu'ils ont beaucoup partagé ensemble. Et il faut en arriver là, absolument.
Ouais. C'était l'un des disques que vous écoutiez. Peut-être un des disques qui a suscité une vocation à Morricoeto.
En tout cas, qui m'a beaucoup aidé à évoluer en tant que violoniste, parce que ce sont des interprètes qui mettent toute leur âme. Je disais, c'est pas forcément exactement le texte, mais c'est tellement convaincant, c'est leur personnalité et qui ouvre tout un tas de voies, de possibilités. Et je trouve que c'est très important hein, quand on est en évolution.
C'est vrai, on est très sur la partition, hein, depuis en plus tout ce renouveau du baroque, on est sur l'authenticité. Il y a quand même la subjectivité de l'interprète, ça compte aussi, non ça...
Oui, il faut que ce soit sincère, en fait, oui. Je crois. C'est très important d'essayer de comprendre le message du compositeur à travers tous les éléments qu'il a pu nous donner dans le texte. Mais finalement, parfois, un mot est trop fort pour le décrire. C'est simplement une inflexion ou des choses comme ça. Il faut arriver à saisir ça. Et puis après, la sincérité de l'interprète fait le reste. Et c'est là où il faut être ouvert et vraiment interpréter ses œuvres.
C'est la même chose quand on est chef d'orchestre à Morricoeto, puisque vous allez donc diriger ce soir le philharmonique où vous jouez. C'est d'être une drôle d'expérience de diriger ses collègues, non?
Oui, c'est un plaisir de se retrouver aussi dans ce contexte. On se connaît très bien maintenant, à travers les années partagées au sein de l'orchestre. Ce sont des œuvres que j'ai beaucoup dirigées aussi, donc qui permettent d'aller toujours plus loin, de trouver dans l'interprétation des comme on disait, dans la connaissance, dans la fluidité, et de raconter cette histoire. Il y a beaucoup de générosité dans le programme, dans les compositeurs, de ce qu'ils ont écrit dans le programme de ce soir. Donc c'est un grand grand plaisir de partager ça.
Un orchestre incroyable, un orchestre très souple, qui est aussi à l'aise dans ses répertoires classiques que dans les répertoires de la musique d'aujourd'hui.
Thank you.
Nous écoutions un extrait de l'œuvre d'Henri Dutilleux, Shadows of Time, le passage, le mouvement dominant de bleu. C'est évidemment l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé cette fois-ci par Esa-Pekka Salonen. Et c'est donc un enregistrement qui a reçu...
qui a reçu les victoires,
victoires de, 2014.
De musique en 2014.
C'est quand même bien ça de
se
dire...
C'est une grande fierté pour l'orchestre et puis évidemment tous les membres.
Et oui, bien sûr. Et puis surtout, c'est une façon peut-être de mettre en avant ce répertoire contemporain qui est si varié et si riche et que défend beaucoup l'Orchestre Philharmonique. Harmonique de Radio France.
Oui, bah c'est quelque chose qui tient à l'orchestre, qui lui tient très à cœur. Il y a tellement d'imagination dans ce répertoire-là. On pourrait parler et finalement visionner différentes choses. Je pense que la perception est différente suivant la personne qui l'écoute. C'est juste fabuleux.
Vous, Amaury Coëto, vous faites beaucoup de musique de chambre, vous dirigez des orchestres, vous jouez dans un orchestre comme l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Une belle et longue carrière, vous êtes encore très jeune. Vous êtes sensible à cette musique d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle soit mieux comprise par le grand public? Parce que il y a quand même beaucoup de réticences.
Il y a des réticences. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites, qui sont abordées. Le plus important pour moi, c'est de mettre en valeur la création, d'arriver à comprendre ce qui traverse un compositeur, comment devant une feuille blanche, la fameuse feuille blanche,
ouais, avec des petites lignes quand même,
il émerge tellement d'idées, tellement de choses fabuleuses et qui évoquent tout d'un coup un paysage,
mondes,
ouais, des mondes, des passions. Il faut arriver à expliquer ça, partager ces moments avec les compositeurs, avec le public. Voilà. Donc, mais je crois que l'Orchestre Philharmonique essaye de travailler dans ce sens-là et voilà, le public y est attaché aussi.
Oui, c'est vrai que les publics qui sont présents sont des publics curieux, hein. On voit ça au Festival Présence, ici à Radio France.
Oui, oui.
Il y a du monde.
Absolument.
Tous les âges.
Et puis, c'est vrai que parfois, certaines personnes disent je viens, je ne comprends pas toujours. Et puis finalement, ils se disent mais on sait que c'est Dutilleux, par exemple, ce serait un des plus grands compositeurs du XXe, donc j'aimerais comprendre. Alors ils viennent, et puis un jour ils disent tout d'un coup,
ouais,
le rideau s'est levé et j'ai compris, c'est un monde qui s'ouvre à moi.
Là,
c'est un grand plaisir, oui.
Et je pense que quand on interprète soi-même, on rentre tellement profondément au cœur d'une partition qu'on finit par peut-être pas aimer toutes les partitions, mais en tout cas en comprendre la genèse, oui.
Il y a une perception évidemment très différente quand on commence à rentrer dans tous les détails qui ne sont pas toujours perçus par l'auditeur, mais qui contribuent en fait à l'image générale et qui vont changer complètement la donne. Et c'est vrai qu'on a l'impression de se rapprocher un petit peu du compositeur dans ce cas-là.
Alors ce soir, vous allez diriger la 10e symphonie de Mendelssohn. Il l'a écrit très jeune. Et l'un de vos choix, le choix suivant, c'est un oratorio absolument magnifique. C'est Elias, toujours du même compositeur. Un très bel extrait de cet oratorio Elias de Mendelssohn. Michel Corboz est à la tête de l'orchestre et du chœur de la Fondation Gulbenkian. Pourquoi ce choix, Moriko Eto ?
Ah mais c'est un disque avec lequel j'ai grandi.
Ah oui ?
Absolument.
C'est rare.
C'est vrai que c'est une pièce qui est à mon goût pas assez jouée, pas assez écoutée, que j'aime beaucoup. En plus avec Corboz qui a ce traitement orchestral mais tel un choriste en fait. C'était toute cette partie, cette introduction qui nous accapare et nous lâche jamais jusqu'à l'entrée du chœur.
Du chœur qui est absolument éblouissant.
Incroyable, ouais. C'est incroyable. À chaque fois j'ai un grand plaisir à écouter ça.
Et alors qui écoutait ça chez vous ? Vous ?
Absolument.
C'est vous qui vous étiez acheté le disque ?
Oui, oui. Mes parents sont mélomanes, avaient une belle collection. Et puis voilà, après, il fallait faire quelques trouvailles en plus. Et on partageait ça aussi à la maison.
C'est une chance, hein ?
Oui.
Alors vous allez diriger cette 10e symphonie de Mendelssohn. C'est absolument stupéfiant parce qu'il a écrit 12 symphonies en l'espace de...
De 2 ans.
De 2 ans et il n'était pas bien âgé.
Non, c'était entre ses 12 et ses 14
ben
ans.
Ben voyons.
Et voilà, c'est vraiment l'opposé puisque Elias est l'une de ses dernières œuvres. Mais déjà, dès le début, il composait déjà... puisque le premier concerto pour violon, il en avait 11. Donc, bon. Et il avait déjà cette architecture... Et cette façon de nous tenir en haleine toujours, avec parfois très peu de motifs qui sont simplement développés peu à peu et qui s'étendent
exponentiels,
comme ça.
Exponentiels, ouais, absolument. Ouais. Et ça nous entraîne vers une espèce de jubilation quand même.
Ah, hein. Oui, c'est cette fameuse entrée du cœur.
Alors vous aussi, vous faites partie de ces jeunes, on va dire prodiges, oui, vous avez quand même gagné un nombre de prix prestigieux assez jeunes. C'était il y a déjà un petit moment, mais vous en souvenez certainement. Beaucoup des jeunes artistes passe maintenant des concours. Qu'est-ce que vous en avez passé aussi quelques-uns ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que c'est nécessaire pour une carrière ?
Ça, je n'en suis pas certain. En tout cas, je pense qu'on peut toujours en tirer quelque chose de positif, quel que soit le résultat, parce que le concours, d'abord, nous demande une très grande préparation, jusqu'en dans les moindres détails, peut-être plus encore que dans d'autres conditions. Il demande un grand répertoire. Ça nous oblige aussi à travailler d'autres œuvres,
d'autres styles,
des compositeurs. Oui, voilà. Il y a toujours la musique contemporaine, ce qu'on n'a pas forcément fait quand on est tout jeune. Donc voilà, on aborde tout ça. Donc au minimum, on a gagné ça. Voilà. Et puis après, si on a la chance d'aller plus loin, voilà, ça fait des belles lignes sur le CV, on va dire.
Laura Marie Coëto, on parle beaucoup de votre vie en tant que musicien d'orchestre ou chef d'orchestre, mais vous avez une vie non pas secrète, mais plutôt publique, qui est celle de chambriste, parce que vous aimez beaucoup la musique de chambre.
Oui.
Vous en faites depuis toujours, d'ailleurs.
Ah oui, c'est quelque chose... quand j'étais à Bordeaux, pour pratiquement mes premières années de violon, déjà à l'époque, en fait, le mari de Madame Lefebvre, mon professeur, était professeur de musique de chambre, et c'était quelque chose de très important qui était ancré dans la salle. Dans la classe, pardon. Et donc, on a pu grandir avec ça et ça ne nous a jamais quittés. Donc, on a créé Trio Hadès.
Hadès, le trio des enfers, voilà. Amaury Coëto.
On reste dans le thème d'Elias un petit peu.
D'accord, Bon, vous n'avez pas l'air comme ça. Tandis qu'avec ce trio Hadès, vous allez enregistrer du Brahms, semble-t-il.
On va faire l'intégrale des trios de Brahms avec donc Geoffroy Couteau et Raphaël Perrault.
Qui est lui membre de l'Orchestre National de France.
National, voilà.
Et en attendant cet enregistrement, je vous propose qu'on écoute un extrait du dernier enregistrement que vous ayez fait avec l'Orchestre Philharmonique de Liège. C'est donc un enregistrement consacré à des œuvres plutôt rares d'Eugène Ysaÿe.
Thank you.
Et quelle belle musique, Americo Eto.
Oui,
c'est vous qui jouez, donc c'est ce rêve d'enfant d'Isaïe.
Et c'est d'une très grande douceur et à la fois d'une très grande générosité.
Très lyrique.
Oui, c'est vrai que jeune Isaïe a vraiment cette particularité-là. Bon, il a tout fait à l'époque. Il était violoniste, chef d'orchestre, compositeur, à un niveau peut-être inégalé. Et voilà, cette générosité-là qu'on a toujours plaisir, je trouve, à entendre et à interpréter.
Oui. Aussi. Donc là, vous étiez avec l'Orchestre Philharmonique de Liège. Mmh. Et c'est un disque qui est sorti au mois de mai dans la série Musique en Wallonie.
Oui. C'était un immense plaisir parce que c'est un disque qui est partagé avec Svetlin Roussef,
qui est le deuxième super soliste des trois.
Voilà, et puis avec Jean-Jacques Kantorov qui dirigeait, qui était notre mentor à tous les deux quand nous étions parisiens.
Oh, ce que c'est joli, c'est une belle histoire de famille.
Exactement.
Alors. Merci beaucoup, Americo Eto. On a hâte de vous entendre et de vous voir diriger ce soir l'Orchestre Philharmonique de Radio France dans un très joli programme Mendelssohn, Mozart et Tchaïkovski.
Merci.
Et puis donc ce disque, Isaïe. Merci.
Merci beaucoup.
Cette musique vous rappelle quelque chose? Eh bien, c'est tout le travail que mène le pianiste et improvisateur Jean-Philippe Collard-Neven, à ne pas confondre avec son homonyme. Il s'est associé au quatuor Debussy et au contrebassiste Jean-Louis Racinfos pour enregistrer dans la collection Signature de Radio France un disque intitulé Filigrane, qui donne également son nom à l'extrait que nous avons entendu et dans lequel il revisite Bach, Ravel et Debussy. Il y a quelques exemplaires de ce disque à gagner pour les Lève-tôt de France Musique. Pour cela, il vous suffit de nous écrire sur le site de l'émission en précisant bien toutes vos coordonnées. Bonne chance à tous. Aujourd'hui, c'est à travers les yeux de quelques lycéens curieux que nous allons rencontrer l'Orchestre National de France dans notre reportage. Quelques lycéens du lycée de Meaux, de la classe d'Antoine Mignon. Ils ont en effet suivi cette année un parcours qui les a conduits à suivre l'orchestre. Et comme vous allez l'entendre, la rencontre avec la musique vivante et ceux qui la jouent porte régulièrement ses fruits. Antoine Mignon, vous êtes le professeur de ces élèves. Qu'est-ce que signifie ce parcours avec l'Orchestre National de France que vous avez fait cette année ?
Ça signifie surtout que les élèves ont rencontré à plusieurs reprises l'orchestre et des différents interlocuteurs, des musiciens et des gens qui travaillent autour, parce qu'il y avait aussi l'envie de découvrir ce qui se passe derrière, dans les coulisses, à plusieurs reprises, parce que ce qui est important, au-delà d'une rencontre, c'est de créer une certaine proximité avec la musique classique, avec la musique symphonique, l'orchestre, et que finalement, que pour eux deux, venir au concert et à la maison de la radio devienne quelque chose d'assez banal.
Pour l'instant, j'ai à mes côtés quatre élèves qui ont eu la chance de suivre ce parcours. Il y a Lou, Léa, Camille et Léa. Bonjour. Vous pouvez me répondre bonjour. Bonjour. Alors, peut-être pourriez-vous tout de suite me parler de l'Orchestre National de France. Est-ce que vous aviez déjà entendu un orchestre symphonique en concert, Léa ?
Non, pour moi, c'était vraiment la première fois. Et ce qui m'a frappée, c'est vraiment la différence de son avec les disques qu'on peut écouter en cours ou bien chez nous. Et dans l'auditorium de la maison de la radio, le son, il est bien meilleur. Et on est comme enveloppé par les différents instruments.
Et toi, Lou, alors ?
Moi, j'avais déjà entendu un orchestre en concert, sauf que comme c'était dans des conditions moins bonnes, ça change beaucoup de choses. J'ai surtout été marquée par le premier concert. On a eu la chance de voir et d'entendre le nouvel orgue de l'auditorium. Et c'est Olivier Latry qui a joué le concerto pour orgue de Poulenc, qui était accompagné par l'Orchestre National de France. Mais ce qui m'a surtout impressionnée, c'était le bis. Parce que l'orgue, il était seul dans la salle et du coup, on percevait parfaitement tous ses jeux. Et du coup, c'était une bonne découverte.
Pour toi et pour tout le monde. On écoute un extrait de ce concert. Alors c'était donc un extrait du concert que donnait l'organiste Olivier Latry à l'orgue le 10 mars dernier à l'auditorium de Radio France. Et toi Camille, alors tu es tombée sous le charme de l'orgue d'Olivier Latry ou de l'orgue, je ne sais pas.
Ce qui était intéressant surtout c'était de voir changer les jeux, puis du coup on voyait les volets de l'orgue s'ouvrir, se fermer. Je connaissais essentiellement les orgues d'église justement, et là c'était quelque chose de complètement différent en fait. Mais bon, à choisir, je préférais quand même le piano de David Frey.
Ah oui, parce que tu as écouté aussi un concert de David Frey. Oui. Et alors ?
J'ai beaucoup aimé le concerto de Schumann qu'il a donné. C'était vraiment très beau. Et puis après, ça m'amusait de savoir qu'il avait joué avec son beau-père, Riccardo.
Une histoire de famille.
Ouais, j'imagine bien les dîners le soir, après un concert.
Thank you. David Frey au piano, Ricardo Muti à la tête de l'Orchestre National de France. Nous écoutions l'intermezzo extrait du concerto pour piano et orchestre de Schumann. C'est le choix de Camille. Et Léa, toi, je crois que ce n'est pas un concert qui t'a le plus marqué, mais c'est la rencontre avec Patrice Kirchhoff, qui est flûtiste à l'Orchestre National.
J'ai beaucoup aimé, oui, parce qu'il nous a montré les différents modes de jeu de la flûte. Et franchement, je ne savais pas du tout que cet instrument il pouvait émettre autant de sons différents, en fait. J'ai eu envie de découvrir, de connaître davantage les musiques pour flûte. Et il nous a expliqué que ces sons ils étaient beaucoup utilisés aussi dans la musique contemporaine, en fait. Et du coup, j'ai découvert le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy. Nous venons d'entendre donc un extrait du prélude à l'après-midi d'un faune par l'Orchestre National de France. Alors Léa, toi tu n'as pas encore parlé, est-ce qu'un autre moment t'a marqué dans les différents concerts de l'Orchestre National de France auxquels vous avez assisté avec les autres élèves du lycée de Meaux ?
Oui, c'était un concert au Théâtre des Champs-Élysées. Bien sûr, je trouve l'auditorium de la Maison de la Radio magnifique, mais le Théâtre des Champs-Élysées est vraiment beau, avec ses escaliers, ses dorures et ses peintures.
Et puis ses beaux fauteuils rouges. Ça t'a plu ça aussi?
Oui. Ouais. On a surtout entendu le mandarin merveilleux de Bartok. J'ai trouvé cette œuvre passionnante parce que c'est celle où on entend le plus les instruments de l'orchestre, notamment les percussions. Avec tous ces timbres, ces couleurs, j'ai trouvé ça vraiment magnifique.
Un extrait donc du Mandarin merveilleux de Béla Bartók, interprété par l'Orchestre National de France, que dirigeait ce soir-là Gustavo Gimeno. Je vous remercie toutes les quatre d'être venues témoigner au nom de votre classe. Et je vous remercie d'avoir dessiné ainsi un portrait un peu des goûts que peuvent avoir des lycéens en 2016 dans un répertoire symphonique.
Merci à vous de nous avoir accueillis ici en tout cas.
D'autres nombreux parcours interacadémie ont vu le jour cette année à Radio France, qui multiplie les actions en direction des élèves. Vous en avez parfois entendu des échos dans quelques-unes des émissions de France Musique. Ils concernent un peu tous les genres musicaux qui vivent ici à Radio France, du jazz au répertoire pour orgue, en passant par les musiques improvisées ou bien sûr la grande musique, comme l'on dit. Si cela vous intéresse, les informations sont sur le site de Fabrication Maison. La chronique de la Maison Ronde. Bonjour Marie Fauché.
Bonjour Dominique. Ça s'appelle Football et c'est extrait de la musique de scène Le Grand Fleuve Russe de Dimitri Shostakovich. Ici, c'est interprété par Roustem Erouginov.
Vous allez donc nous parler de football ce matin, Marie ?
Je vous parle de football, oui, Dominique.
Ah, ah.
Vous avez peut-être vu, Dominique, vous qui êtes très branché sur l'actualité du Stade de France.
Bien sûr.
Vous avez peut-être vu hier soir les enfants de la maîtrise de Radio France chanter la Marseillaise pour la cérémonie d'ouverture de l'Euro 2016.
Évidemment que je les ai vus et entendus.
Puis figurez-vous que la version de la Marseillaise qui sera diffusée au début de chaque match de l'équipe de France a été enregistrée ici même à Radio France avec le chœur et la maîtrise de Radio France dirigée par Sophie Janin. Bref, j'ai pensé que c'était un bon prétexte pour un petit parcours musical du football. Et Shostakovich est, semble-t-il, l'un des compositeurs les plus passionnés de football qui soit. Il supportait l'équipe du Zénith de Leningrad et son ami l'écrivain Maxime Gorky disait de lui qu'il était un fan enragé qui se comporte comme un gamin bondissant, criant et gesticulant. Parmi les petites anecdotes, on sait que Shostakovich remporta un concours pour être arbitre. Alors, il n'arbitra jamais de match officiel, mais il mit son diplôme à l'épreuve dans son jardin avec ses amis. On dit aussi qu'un été, il profita de l'absence de sa femme pour inviter à dîner toute l'équipe du Zénith de Leningrad. Le ballet L'Âge d'Or témoigne de cette passion. L'Âge d'Or qui raconte l'histoire d'une équipe de foot soviétique jouant dans un pays capitaliste. Et là, les joueurs soviétiques essaient de convertir leurs hôtes au communisme. C'est du football, c'est aussi de la politique.
C'était la polka qui marque l'arrivée de l'équipe soviétique dans l'âge d'or de Chostakovitch. L'orchestre symphonique de Prague était là dirigé par Maxime Chostakovitch.
Alors évidemment, il y a peu de compositeurs qui ont écrit sur le football avant le début du XXe siècle, puisque c'est un sport qui date seulement du milieu du XIXe siècle et qui a été pratiqué d'ailleurs surtout en Angleterre. La pièce de Charles Ives, Yale Princeton Football pour orchestre, doit être certainement la première à traiter ce sujet en musique. Elle date de 1894, date à laquelle Charles Ives étudiait à l'université de Yale, mais elle n'a été créée qu'en 1970 à Carnegie Hall. Mais ce qui est surtout très original dans cette pièce, c'est le traitement de l'orchestre. L'idée de Ives était de décrire un match de foot. Sur la partition, il indique au-dessus de la partie de basson un gros gardien agressif et qui grogne, ou encore au-dessus du hautbois, en esquivant une demi-ouverture.
L'orchestre symphonique de Malmö, dirigé par James Sinclair, interprétait cet extrait de Yale Princeton Football de Charles Ives.
Et on reste aux États-Unis avec cet extrait de la comédie musicale de Leonard Bernstein, Wonderful Town, qui date de 1953. Pass the football, c'est une sorte d'hymne aux activités physiques et non intellectuelles. Tendez bien l'oreille, il y est même question d'André Gide.
Look at me now, 4 years of college, famous professors tutoring me. Scholarship kid, everything paid for, food and vacations, all of it free. Day that I left, everyone gathered, their cheering still rings in my ears. Rah, rec, ray, ray, rec, rah, rah, rec. Rec, ra, ra, rec, rec, W-E-C, R-E-K, R-E-Q, rec, we love you. 'Cause I could pass that football like nothing you have ever seen. Couldn't spell a lick. Couldn't do arithmetic, one and one made three. Thought the dog was C-A-T, but I could pass that football like nothing you have ever seen. Couldn't write my name, couldn't translate Javu Zane, never learned to read.
Mother Goose or Andre Gide. But I could pass that football like nothing you have ever seen. Couldn't figure riddles, puzzles made me pout. Where the hell was Moses when the lights went out? I couldn't even tell red from green, get those verbs through my bean. But I was buddies with the dean like nothing you have ever seen. Passed without a fuss, English lit and calculus. Never had to cram, even passed the bar exam. Because I passed that football like nothing you have ever seen. Couldn't dance for beans, mashed my girls to smithereens. Sometimes blood was spilled, still my card was always filled. Cause I could pass that football like nothing you have ever seen. Then there was the week Albert Einstein came to speak. Relativity, guess who introduced him? Me! Cause I could pass that football like nothing you have ever seen. Had no table manners, used to dunk my roll. Always drunk the water from the finger bowl. Though I would not get up for any she, the Prexy's mom, age 93, got up and gave a seat to me like nothing you did ever see. In our hall of fame, there's a statue with my name. There we stand by, heck, Link, Washington, and Rack. Cause I could pass that football like nothing you have ever, ever seen.
Brent Barrett interprète ce Pass the Football, extrait de Wonderful Town, la comédie musicale de Leonard Bernstein. Et c'est Simon Rattle qui dirigeait le groupe de musique contemporaine de Birmingham.
Merci Marie Fauché, on se retrouve sur le terrain de foot. Hein. Agenda. Ce soir, à 17h30, au studio 105 de la Maison de la Radio, Jazz sur le Vif invite deux formations. Le tout jeune quintet inventif Horizon du tromboniste Georgi Kornazov. Puis un ensemble un peu plus historique, celui du pianiste Andy Hemmler avec Marc Ducré à la guitare, Claude Chamichian à la contrebasse et Éric Champard à la batterie pour un moment intitulé « Running Backwards ». Ce soir toujours, mais au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines à 20h30, ce sera l'aboutissement du travail que la maîtrise de Radio France, dirigée par Marie-Noëlle Merten, a mené avec des chœurs amateurs, des chœurs scolaires, autour de l'opéra Les Trois Mousquetaires de Julien Joubert. Moment de bonheur assuré. Lundi, c'est au cinéma que Radio France nous entraîne. L'organiste Thomas Hospital, que nous avons reçu dans cette émission, si vous vous en souvenez, sera au pupitre de l'orgue de Radio France pour un atelier-concert, durant lequel il expliquera comment improviser au cinéma autour du film Cendrillon de Georges Méliès. Enfin, mardi, ce sera le concert de fin d'année de la prémaîtrise de Radio France à Bondy, à l'auditorium Angèle et Roger Triboulois. Avec Bruno Perbost au piano et sous la direction souriante de Marie-Noëlle Merten, les enfants chanteront « Le cirque volant » de Jean Absil et « À propos de bottes » de Darius Milhaud.
France Musique.
Veuillez écouter un reportage d'actualité.
Veuillez écouter notre concert de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Bonjour Jean-Yves Pat.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, c'est d'Arthur Honegger que vous voulez nous parler, en tout cas nous faire entendre sa musique.
Oui, parce que il n'y a pas spécialement d'anniversaire, il n'y a rien du tout. Mais c'est un musicien quand même qui a marqué énormément son temps. La semaine dernière, nous parlions du bouleversement du Front Populaire. Eh bien, il y avait à cette époque-là des bouleversements à peu près partout et dans la musique. Et Honegger contribue largement avec, en particulier, sa fameuse Pacifique de 131.
Qui est peut-être la pièce de lui qu'on connaît le mieux.
La plus célèbre. célèbre et qui est un véritable hymne à la marche au progrès. Alors je vous propose de la retrouver dans un enregistrement ancien, des premiers enregistrements réalisés de cette ode, si on peut dire.
C'est vrai qu'il y a une sensibilité des artistes aux transformations du monde qui les entoure.
Et à la vitesse aussi qu'implique cet engin. C'est un enregistrement fait en 27, la création a eu lieu en 23 par Piero Coppola et c'est une version abrégée puisqu'elle tient seulement en deux phases de 78 tours.
Alors c'est vraiment le bruit de ce moteur de train qui avance, ce Pacific 231 d'Arthur Honegger.
Cette locomotive révolutionnaire parce qu'elle allait très très vite. Et alors on s'est un petit peu gossé d'Honegger en lui disant que seules les premières mesures évoquaient les pistons. Mais je crois qu'avec le recul, c'est plus que le piston que ça évoque, c'est le progrès.
Oui, c'est une sublimation de ce monde en route, en marche. Alors l'enregistrement, Jean-Yves, quel est-il ?
Alors c'est l'enregistrement réalisé à Paris en 1927 dans les laboratoires gramophones par Piero Coppola qui dirige le grand orchestre du gramophone. Donc là, on est dans la neutralité,
un peu vague.
La culture. C'est certainement des transfuges des meilleurs orchestres parisiens et certainement de l'Orchestre symphonique de Paris aussi.
est dans quelle année?
On est en 27.
En 27. Alors, Arthur Honegger, toujours avec votre deuxième proposition.
Oui, qui est une œuvre qui est assez peu connue, qui est La Grande Danse des Morts, qu'il a écrite sur un texte de Paul Claudel. C'est une collaboration avec Paul Claudel. Et qui est une œuvre qui, pour le coup, aussi a marqué son temps. Je trouve ça étonnant qu'on ne l'écoute pas plus que ça. Parce qu'elle a été créée à Paris en 1941. Alors, vous savez, Paris en 1941, ça ne rigolait pas. Et cette œuvre a été extrêmement mal perçue par l'occupant et par le gouvernement de Vichy, parce qu'elle véhiculait un message d'espoir et les morts qui se relèvent ont immédiatement été perçus comme la France qui allait se relever. Et il y a eu évidemment des mouvements contre cette œuvre. Je vous fais écouter aujourd'hui l'enregistrement avec ses créateurs, avec en particulier Jean-Louis Barrault, qui est le récitant, car il y a un récitant dans cette danse des morts. Alors, c'est un long extrait, mais ce n'est qu'un extrait.
La main de Dieu s'est posée sur moi, et il m'a emmené en esprit, et il m'a laissé au milieu d'une vaste plaine qui était remplie d'ossements.
Souviens-toi, homme, que tu es poussière, et que tu retourneras en poussière.
Et il m'en fit faire le tour, car il y en avait à l'infini à la surface de la terre. Et ils étaient secs à l'extrême.
Je dis que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul lieu. Ils me l'arrivent, apparaissent. Et il en fut ainsi.
Et Dieu dit: Fils de l'homme, penses-tu que ces eaux vivent?
Et je répondis: Seigneur, mon Dieu, vous le savez.
Et il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur: ossements arides, écoutez la parole du Seigneur.
Je crois.
Ainsi parle le Seigneur Dieu à ses eaux. Voici, je vais introduire un esprit en vous, et vous vivrez.
Et il ne vivra que dans ma chair. Je verrai mon sauveur.
Je mettrai sur vous des nerfs, et je ferai croître sur vous des chairs. J'étendrai de la peau sur vous, et je vous donnerai un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisai. Et il se fit une espèce de bruit et un mouvement. Et les eaux se rapprochèrent les uns des autres, chacun s'adaptant à sa jointure.
Et dans ma propre chair.
Je regardais, et voici que des nerfs et des chairs se formèrent sur eux, et de la peau s'étendit par-dessus, mais il n'y avait pas d'esprit en eux.
Il
me dis, prophétise à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des quatre vents, esprit, et souffle sur ses morts, afin qu'ils revivent. Et l'esprit entra en eux, et ils devinrent vivants, et ils tinrent sur leurs pieds.
L'œil est plus que le visage, et l'amour est plus que la mort.
Souviens-toi, homme, que tu es esprit, et la chair est plus que le vêtement, et l'esprit est plus que la chair, et l'œil est plus que le visage, et l'amour est plus que la mort.
Souviens-toi, homme, que tu es esprit, et la chair est plus que le vêtement, et l'esprit n'est plus que la chair, et l'œil est plus que le visage, et l'amour est plus que la mort.
Souviens-toi, homme, que tu es esprit, et la chair est plus que le vêtement, et l'esprit n'est plus que la chair, et l'œil est plus que le visage, et l'amour est plus que la mort.
Souviens-toi, homme, que tu es esprit, et la chair est plus que le vêtement, et l'esprit n'est plus que la chair, et l'œil n'est plus que le visage.
L'interprétation de cette danse des morts d'Arthur Honegger. Jean-Louis Barrault, on a reconnu sa voix peut-être.
Oui, c'est plus que les danses qu'on trouvait dans les églises, les fameuses danses macabres, ici il y a quelque chose d'extrêmement dynamique, c'est une résurrection, c'est une reprise en main de son destin, c'est un avertissement, c'est une œuvre extrêmement forte et puissante.
Alors qui les est interprètes
ici, alors on l'a dit par Jean-Louis Barrault récitant, c'est la Société des concerts du Conservatoire et la chorale Yvonne Gouvernet, le tout placé sous la direction de Charles Munch. Et nous sommes à Paris en 1941, c'est un disque His Master Voice Gramophone.
Merci Jean-Yves Pat.
À bientôt.
Et voici notre rubrique Parlez-moi de musique, dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Ce matin, nous découvrons le texte que nous a envoyé Françoise Chenuet. Je devais avoir une quinzaine d'années et comme tous les dimanches, nos parents nous avaient emmenés, mes trois frères et moi, à la découverte d'une des nombreuses curiosités de Paris où nous habitions depuis toujours. Ce jour-là au programme, le Palais de la Découverte, qui porte bien son nom. Ses nombreuses salles d'expériences de toutes sortes faisaient alors la joie de tous, petits et grands. Chacun se déplaçait à sa guise, abandonnant ce matin-là le reste de la famille, j'arpente le musée en tous sens et ma déambulation me mène jusqu'à une salle, plongé dans l'obscurité et le silence. En y pénétrant, je ne distingue rien. Néanmoins, au fil des secondes, mes yeux s'habituent et je découvre petit à petit, en levant la tête, une voûte parsemée d'étoiles, avec par endroits des planètes suspendues, semble-t-il, dans le vide. Je commence alors à me déplacer dans cette épaisse pénombre, avec la sensation d'être la seule personne présente. Mon regard s'attarde donc plus précisément sur ce ciel nocturne étoilé où se dessine très distinctement la Voie lactée, lorsque soudain, et comme venant de nulle part, s'élève une musique, d'abord de faible intensité, mais bientôt crescendo, pour venir remplir tout l'espace. Je me fige, interdite, enveloppée de notes. Debout, immobile, j'ai pourtant l'impression que mes jambes ne me portent plus. La musique envahit tout mon être jusqu'à la moindre cellule et je ressens un bonheur indicible. Ce jour-là, à ce moment précis, j'ai eu le sentiment de flirter avec le divin et de faire partie intégrante de l'univers. Combien de temps le miracle eut-il lieu, je n'aurais su le dire. Mais une fois la dernière note éteinte et revenue de l'émotion qui m'avait submergée, j'ai repris ma marche dans la salle et ai découvert une sorte de petite cabine vitrée dans laquelle se tenait assis un gardien du musée au milieu d'une invraisemblable pile de disques, 33 tours vinyle à l'époque. Trop curieuse de savoir ce qui venait de me bouleverser, j'osais, malgré ma timidité d'adolescente, lui demander le titre de l'œuvre. Il me tendit alors une pochette de disques blanches illustrée d'angelots, sur laquelle je pus lire « Autour du célèbre canon de Pachelbel ». Et c'est ce canon que je venais d'entendre. C'est le premier disque de musique classique que je me suis acheté, et depuis, je l'ai conservé religieusement. Pour illustrer le souvenir musical de notre auditrice Françoise Chenuet, nous avons entendu le fameux canon de Johann Pachelbel dans la version de l'ensemble I Musici. Merci à tous pour vos souvenirs que j'aime à découvrir et à partager avec vous à ce micro. Question de cœur avec Sophie Janin. Bonjour Sophie Jeannin.
Bonjour.
Alors, je voulais aujourd'hui qu'on parle un petit peu d'un pays où on chante énormément aussi de façon chorale, c'est la Russie. Et alors ça date d'il y a très longtemps, et on peut avoir l'impression parfois que ce chant est un chant qui n'a pas tellement évolué. C'est le chant orthodoxe qui est un peu toujours le même, quoi, un peu comme l'iconographie d'ailleurs.
Alors, je vois ce que vous voulez dire, absolument. C'est-à-dire qu'il y a une esthétique qui est tout de suite reconnaissable. Moi, pour ma part, je trouve la musique orthodoxe absolument magique. Il y a en effet, dans les compositions qu'on retrouve, cette rondeur, cette culture du son, cette collectivité, et souvent avec une écriture complexe. Il y a aussi un mélange de ce qu'on connaît dans l'Occident, c'est-à-dire avec une mélodie qui est harmonisée ensuite par les voix graves, mais on trouve aussi des choses dans la musique russe qu'on trouve aussi dans les musiques populaires des pays de l'Est, c'est-à-dire une mélodie centrale et qui est enrichie tout autour. Cette richesse-là et ces spectres harmoniques créent en effet des sonorités où on se dit tout de suite « Ah, ça y est, c'est de la musique russe ». Donc, on a grand plaisir de pouvoir découvrir cette musique chez nous. Et pour le chœur de Radio France, c'est un des répertoires de prédilection. Parce que les chanteurs sentent qu'ils peuvent prendre à la fois la place en tant qu'individu, chanter avec la voix pleine et puis être dans cette merveilleuse collectivité de chanter ensemble, de chercher cette rondeur, cette couleur, ces harmonies qui résonnent ensemble.
C'est une musique qui favorise une forme de cohésion où chacun a sa place. Tous les pupitres sont mis en valeur.
Je pense que tous les pupitres sont mis en valeur et ce qui est aussi, je pense, fait partie du jeu dans cette musique-là, c'est que dans la musique orthodoxe et les compositeurs qui mettent en musique ce rituel, dans la tradition orthodoxe, pour moi, on célèbre le mystère en grande partie. Et c'est quelque chose que je ressens très fortement en travaillant chaque fois la musique russe, c'est qu'on est dans ce mystère et le mystère qui fait partie de la vie. Et des choses qui nous dépassent. Et pour ça, ça va pour moi jusqu'au phénomène de chanter ensemble, de vivre ça. Et si on vit, par exemple, un rituel orthodoxe, par exemple autour de Pâques, vous savez, dans certains pays où on fait le tour de l'église ou de la cathédrale avec des bougies, on arrive à l'intérieur, vous savez, pendant les rituels orthodoxes, les gens restent debout, et on a cette idée qu'on vit un mystère. Et je trouve qu'on retrouve ça dans la musique chez ces grands compositeurs de musique russe.
Un extrait des Vêpres de Rachmaninov par le chœur de la radio lettonne dirigé par Sigvard Klava. Enfin, il y a des places à gagner pour un concert Radio France, celui du vendredi 17 juin à 20h à l'Auditorium. Le chœur de Radio France rejoindra l'Orchestre Philharmonique sous la baguette de Mikko Franck. Après deux œuvres du compositeur en résidence cette année avec l'orchestre Magnus Lindberg, vous pourrez entendre également une œuvre de Rautavaara et les fragments symphoniques du Martyr de Saint-Sébastien de Claude Debussy. Le concert sera de toute façon en direct sur France Musique. Et voilà, c'est la fin de notre émission réalisée avec la complicité de Pauline Boisaubert, de Philippe Petit et de Julien Cavas, Xavier Atto, Mathieu Tourin et Cécile Gissot. À très vite et bon week-end à vous.